Bonsoir. Le gouvernement congolais ordonne la cessation immédiate des activités de la nouvelle agence belge de développement, Enabel en sigle, et le démantèlement du dispositif consulaire dénommé Maison Schengen. Cette décision est contenue dans un communiqué de presse rendu public hier mercredi. Kinshasa réagit ainsi après que, mi-janvier, la Belgique a décidé de priver le Congo de son aide directe au gouvernement pour protester contre la répression de la manifestation pacifique du 31 décembre 2017. Comment analyser cette décision? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec Maître Guillaume Mandiolo. Il est secrétaire général du parti politique Union des libéraux démocrates chrétiens et communicateur de la majorité présidentielle. Il est aussi diplomate politique pendant 10 ans au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et régionale. Bonsoir Maître Guillaume Mandiolo.
Bonsoir Monsieur Maté.
Professeur Arsène Mouaka, député national élu de Beni Ville au Nord Kivu. Il est président national du parti politique de l'opposition dénommé DCFN. Bonsoir professeur Arsène Mouaka.
Bonsoir Guy Martin.
Et Christian Moleka, coordinateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir monsieur Christian Moleka.
Bonsoir Guy Martin.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le ministère des Affaires étrangères ordonne la cessation immédiate des activités de la nouvelle agence belge de développement, Enabel en sigle, et le démantèlement du dispositif consulaire dénommé Maison Schengen. Cette décision est contenue dans un communiqué de presse rendu public hier. Blaise Makassi fait le compte-rendu de ces documents officiels.
Selon les communiqués du ministère des Affaires étrangères et intégration régionale, la coopération au développement belge n'est ni indispensable aux autorités congolaises, ni vitale pour la population de la République démocratique du Congo et du reste, n'a pas été demandée par les autorités congolaises. La RDC a besoin d'une coopération basée sur le renforcement des structures de base pour accompagner le décollage économique du pays au potentiel énorme, alors que pour la Belgique, poursuit le communiqué, elle se base sur une coopération réduite aux intérêts humanitaire ponctuelle, pour ne pas dire philanthropique, paternaliste, voire missionnaire. Le ministère des Affaires étrangères stigmatise la volonté de détermination unilatérale par la partie belge des domaines d'affectation de son apport à la coopération. Il note que près de 50% de l'enveloppe globale de cette dite aide sert à la rémunération du personnel expatrié du pays donateur, notamment des assistants techniques internationaux. Ce dernier précise que c'est pour cette raison que le gouvernement congolais avait adhéré à la proposition de procéder à une remise à plat des relations bilatérales de coopération avec le Royaume de Belgique, ce qui aurait été l'occasion d'en redéfinir les termes de référence répondant aux intérêts respectifs des deux pays.
Merci à vous Blaise Makassi. Cette décision intervient après que la Belgique ait décidé le 11 janvier dernier de revoir son aide financière au pays dans le domaine humanitaire. C'était à l'issue de la réunion à huis clos devant la commission des relations extérieures de la Chambre des représentants. On écoute Jean-Pierre Dali Coco qui nous rappelle cette décision.
Concrètement, la Belgique met fin à une série d'interventions qui devraient être mises en œuvre directement par le gouvernement congolais, et ce, jusqu'à l'organisation d'élections crédibles en RDC. La décision concerne les interventions pour un montant total de 25 millions d'euros, selon un communiqué diffusé par l'ambassade de la Belgique à Kinshasa. En tournant le dos au gouvernement, la Belgique a choisi la coopération avec les organisations non gouvernementales pour affecter les moyens libérés au profit de l'aide humanitaire et d'autres initiatives répondant aux besoins les plus pressants de la population. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et son collègue de la coopération Alexander Kroh condamnent l'intervention des forces de l'ordre le 31 décembre et appellent à l'ouverture d'une enquête indépendante. Réagissant à la décision des autorités belges, le porte-parole du gouvernement dit ne pas être étonné, car selon Lambert Mende, les destinataires de cette aide sont connus. Au lieu de financer les élections qui coûte très cher, la Belgique a choisi de financer un groupe d'individus qui veulent déstabiliser le pays, s'indigne le porte-parole du gouvernement.
Merci Jean-Pierre Elali Ikoko, Maître Guillaume Mandiolo. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti politique Union des libéraux démocrates chrétiens et communicateur de la majorité présidentielle. Vous êtes aussi diplomate politique pendant 10 ans au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et régionale. Comment vous expliquez cette décision du gouvernement congolais d'ordonner la cessation immédiate des activités de la nouvelle agence belge de développement et le démantèlement des dispositifs consulaires dénommés Maison Schengen? Commençons par la fermeture de la Maison Schengen.
C'est simplement ce qu'on appelle la réciprocité en termes politiques et diplomatiques. Et ça tire sa source au fait d'une situation qui est tout à fait baroque. Et j'ai eu l'opportunité et la chance d'accompagner le ministre Raymond Tshibanda pour préparer la reprise de la relation diplomatique.
L'ancien ministre des Affaires étrangères.
Effectivement, en 2009-2010, pour préparer la conciliation, la réconciliation ou éventuellement la normalisation des relations entre la Belgique et la RDC. À cette occasion, on a préparé des dossiers en faveur de deux chefs de gouvernement en 2009. D'abord, fin 2008, début 2009, et le 24 janvier 2009, M. Van Rompuy, qui était Premier ministre de la Belgique, et puis M. Mozito, pour la RDC, ont signé l'acte de normalisation de nos relations avec quelques principes clés, qui étaient notamment le respect de la souveraineté des deux parties, et que toute discussion sur tout différent devait se passer par les canaux ou les canaux diplomatiques. Ça a été convenu ainsi. Peu importe la situation, il fallait qu'on passe par ces mécanismes. Parce que pendant très longtemps, on a eu cette propension à aller dans la presse, à expliquer la situation, et ainsi de suite. Et tout ça, c'était pas convenable ni respectueux pour les uns et les autres. Et partant de là, on a vécu une période assez intéressante pendant très longtemps. Et les principes de pouvoir décider unilatéralement et par médias n'avaient jamais été acceptés. On a dit qu'on ne ferait plus jamais ça. Et on est surpris de voir qu'effectivement, peu importe ce que nous peut nous reprocher la Belgique, peu importe ce qui se passait au niveau de la RDC, mais il y a des mécanismes de discussion ou d'échange, des notes ou des positions par rapport à ce qui frustre. La maison Schengen se trouve, il ne me semble pas qu'au niveau de l'Afrique, il y a un autre pays qui a une maison Schengen. Nous sommes le seul pays à avoir accepté ces dispositifs particuliers.
Un guichet unique.
Unique, qui est néfaste, au fait, pour l'essentiel, pour les Congolais.
Qui est néfaste?
Qui est néfaste.
Ah bon, pourquoi?
Souvenez-vous que pendant très longtemps, les Congolais ont réclamé qu'on puisse fermer cette maison. Parce que ça ne favorisait pas beaucoup de Congolais, dans la mesure où toutes les demandes des visas passaient par les truchements, par les prismes, la vision du colon belge, l'ex-colon belge. Et il y a quelque chose de tout à fait malsain. Il y a même des députés qui ont défilé par rapport à ça, qui voulaient absolument qu'on puisse fermer cette maison, que chaque ambassade puisse prendre ses responsabilités, qu'on s'aligne sur ce qui se passe dans d'autres pays. Pourquoi est-ce qu'il y avait un dispositif particulier en ce qui concerne la RDC? C'était une faveur, en fait, qu'on avait faite au niveau de la Belgique. Mais on ne comprend pas très bien, après qu'on vous ait fait ce type de faveur. Moi-même, lorsque j'étais aux affaires étrangères, plutôt à la coopération, on a eu à faire des faveurs, des dérogations particulières, notamment au personnel belge qui était dans l'illégalité absolue. Ici, à Kinshasa, les gens qui avaient des mandats de plutôt 3 ans renouvelables une seule fois, qui étaient là depuis 12 ans. J'ai dû, moi, stopper certains contrats des coopérants belges, mais qui bénéficiaient de trop de facilités.
Et donc, on ne vous a pas renvoyé l'ascenseur?
Mais c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir la contrepartie égale par rapport à ça. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il n'y a pas des choses qu'on peut reprocher à la RDC d'une manière ou d'une autre. Mais c'est la façon de procéder. C'est sur quoi on doit devoir discuter. La façon de procéder. Et il me semble qu'il y a un problème avec une sorte de politique d'inimitié, telle que nous l'explique Achille Mémé dans son dernier texte, de cette vision à la fois ayant porté les gens en tant qu'esclavagistes, en tant que colons, et par la suite, ils veulent continuer avec ce type d'autorité pour avoir toujours un œil de supériorité en permanence.
Et donc, par cette décision, la RDC oblige les différentes ambassades, notamment celles d'Allemagne, de la France, de l'Italie et de la Suède, à pouvoir reprendre leur tâche qui consistait à gérer les demandes de visa.
Monsieur Maté, traverser à Brazzaville, y a-t-il une maison Schengen? Ici à Brazzaville, il n'y en a pas. Et comment ils font pour prendre les visas pour aller dans l'espace Schengen? Ils vont dans les ambassades. On a facilité à la Belgique ce qu'on n'a jamais fait ailleurs.
Et au sujet de la fermeture de cette nouvelle agence belge de développement, qu'est-ce qui justifie cette décision?
Quelle est la nécessité d'une agence au développement dans la mesure où on dit, voilà, il y aura les passages directs de l'aide vers des entités tiers? Quel est l'intérêt d'avoir une agence puisqu'il n'y en a plus besoin? L'agence sert à pouvoir faire les cordons ombilicales.
Il s'agit d'un seul compartiment, c'est juste 25 millions de...
Non, mais écoutez, tant qu'à faire... Vous savez, il y a aussi une supercherie sur l'aide. Est-ce que la déclaration des paris est respectée par rapport à l'aide? L'aide doit être prise en charge par celui qui reçoit l'aide. Pas celui qui donne, ne donne pas à la fois l'aide et les principes de la mise en œuvre. Or, c'est ça le cas. Donc, il me semble que ce n'est même pas nécessaire. Et c'est quoi 25 millions dont on parle ici? Ça va où exactement? Je vous dis que plus ou moins deux tiers de cette aide revient aux expatriés et à la logistique. Ce qui fait que, in fine, j'ai fait ça pendant 10 ans, donc on ne peut pas m'apprendre quoi que ce soit. J'ai fait ça pendant 10 ans.
Mais Mangiolo, cela nous rappelle les relations en dents des scies entre les Zaïre et la Belgique pendant la décennie 80 et surtout 90. On sait que ces bras de fer n'avaient pas profité aux Zaïre. Est-ce que l'histoire n'était pas en train de se répéter?
Vous êtes sûr que ça n'a pas profité aux Zaïre à l'époque? Où est-ce qu'on en est avec
les... Qu'est-ce que les Zaïre avaient gagné à l'époque?
Qu'est-ce que la Belgique a gagné? Où est Sabena aujourd'hui? Sabena fait faillite?
Sabena... Comparativement à ce que la RDC, la Belgique, plutôt les Zaïre à l'époque avaient perdu.
La RDC ne gagne rien du tout, globalement. C'est un saupoudrage, simplement. Dites-moi quelle est l'œuvre belge qui a eu 80 ans de gestion? Et par la suite, aujourd'hui, depuis la coopération, quelle est l'œuvre belge aujourd'hui ici? Je suis pas en train de dénigrer tout. Il y a une sorte, au fait, de soutien quelconque. Mais l'aide structurelle aurait été de nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut collecter la TVA, de voir comment est-ce qu'on peut faire les centres de recherche appliquée fondamentale. Cette aide n'est jamais arrivée.
Merci. Professeur Arsène Mouaka, député national élu de Beniville au Nord Kivu, vous êtes président national du parti politique de l'opposition dénommé DCFN. Comment vous réagissez à toutes ces décisions prises par le gouvernement congolais?
Je voudrais déplorer le comportement de notre gouvernement qui finalement s'en prend à tout le monde. C'était l'Église catholique hier, aujourd'hui c'est la Belgique, et quand on s'apprend à la Belgique, on s'apprend à côté aussi aux Allemands, aux Suédois et aux autres. De mon point de vue, le gouvernement ne gagne pas, puisque c'est pas une question du pays, c'est une question d'un régime qui se retrouve en difficulté, un régime qui ne veut pas partir, dont le mandat a expiré. Et tout le monde interpelle ce régime pour dire « tu n'es pas dans le bon ». Et quand des étrangers décident de donner même un centime, puisque même si c'est un centime, c'est toujours quelque chose pour la population, eh bien, un gouvernement dit « ne donnez même pas à mes gens ». Alors que le même gouvernement ne donne rien. Je prends un cas, je suis à l'université de Kinshasa. Il y a plein de programmes de coopération, des équipes de professeurs de médecine, parce que mon collègue venait de dire qu'il attendrait l'aide dans le domaine technique et autres. Je veux parler des choses concrètes. Des équipes de professeurs congolais et belges réunies vont être financées par la Belgique. Et notre gouvernement dit non. Pour des maladies rares, pour des maladies qui nous font du mal, alors que notre propre gouvernement ne finance même pas d'un seul centime. Je crois que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'on appelle ça réciprocité. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on appelle réciprocité en diplomatie. Parce que c'est la réciprocité consisterait à dire, comme vous les Belges, vous décidez de couper l'aide bilatérale. Nous aussi, nous coupons notre aide bilatérale à votre endroit. Le gouvernement congolais allait arrêter son aide à la Belgique. Le gouvernement congolais allait financer aussi les ONG belges. C'est cela la réciprocité. Faites-les.
Oui, professeur Arsène Mouaka.
C'est anormal.
Vous dites que le gouvernement congolais ne gagne rien, n'est-ce pas, dans ces bras de fer. Mais vous ne comprenez pas l'attitude de ce gouvernement lorsque il se rend compte que les principes sur lesquels ils se sont convenus, Maître Mandiolo l'a rappelé quand il avait accompagné les ministres, l'ancien ministre des Affaires étrangères en Belgique pour normaliser les relations entre les deux pays. Ils se sont convenus sur un certain nombre de principes. Mais lorsque le gouvernement congolais se rend compte que la partie belge ne respecte pas ces principes, vous pensez qu'il serait responsable de sa part de pouvoir rester sans réaction, passif?
J'ai difficile à attester ce qu'il dit. J'ai difficile. Mais au moins, je sais ce qu'on reproche au gouvernement de ne pas respecter des engagements. Le premier engagement, c'est la Constitution. Le gouvernement congolais ne respecte pas. Le deuxième engagement, c'est l'accord de Saint-Sylvestre. Le gouvernement congolais ne respecte pas. Pouvez-vous reprocher aux autres ce que vous faites? Pouvez-vous? On ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Je pense que le gouvernement n'a qu'à s'apprendre à lui-même. Ici, le gouvernement entame les intérêts des Congolais. La maison Schengen, que mon collègue à côté dise que le peuple congolais n'en a pas besoin, mais alors je voudrais bien qu'il dise ce qu'il veut dire. Puisque nous avons été humiliés dans les ambassades. Les gens allaient passer nuit dans les ambassades, s'aligner. Et c'est comme ça que le programme Schengen a été conçu pour remettre la dignité aux Congolais. Parce que comme il l'a dit, à face de nous, il n'y a personne qui il n'y a pas de maison Schengen. Vous savez pourquoi? Parce que eux n'ont pas, parmi les programmes de leur population, il n'y a pas sortir du pays. Les gens passent de nuit dans des églises pour prier, afin de sortir du pays, puisque rien ne va. Et tout le pays veut partir. Et c'est comme ça que finalement, il faut créer des mécanismes pour ces gens qui veulent à tout prix partir. Dans d'autres pays, les gens veulent rester dans leur pays. Aller à Brazzaville, aller au Gabon, aller partout ailleurs. Les gens ont la dignité, ils ont la fierté de rester dans leur pays. Nous voulons partir et on nous fait des dispositifs particuliers qui tentent de nous remettre un tout petit peu la dignité.
Et oui, cette décision qui consiste à démanteler la maison Schengen ne va-t-elle pas entraîner des perturbations, n'est-ce pas, dans les traitements des demandes et des visas? Et du coup, retarder l'octroi de ces documents.
Mais je ne sais pas comment on peut avoir un gouvernement qui entame les intérêts de son peuple. Nous sommes encore en train de sortir de la bêtise des passeports. Nous sortons de la bêtise des passeports qui a fait perdre aux Congolais beaucoup d'intérêts. Et voilà encore au revier sur les visas des Congolais. Il faut tout embrouiller. Je pense que le gouvernement va se ressaisir. Et je demande au peuple congolais de s'exprimer quand même. Que nous puissions nous exprimer pour dire au gouvernement, arrêtez ce que vous faites, entame plutôt nos intérêts. Ça ne dérange à rien les Belges. Si vous avez des sanctions que vous allez appliquer aux Belges, appliquez-les. Et quand on est incapable de sanctionner quelqu'un, il vaut mieux se taire quand vous êtes impuissant, plutôt que de sanctionner votre propre peuple.
Le gouvernement belge plutôt avait justifié sa décision de revoir son aide financière par la répression de la marche du 31 décembre. Professeur, peut-on dire que la RDC reste cohérente avec elle-même, elle ne tolère pas l'immixtion de l'étranger dans ses affaires intérieures? On se rappelle que cette position avait été signifiée au corps diplomatique lorsqu'en avril de l'année dernière, la RDC avait suspendu sa coopération militaire avec la Belgique.
Il n'y a aucune immixtion. Quand on vous rappelle de respecter le droit de l'homme, on ne vous tue pas. Respecter le droit de l'homme, c'est aussi simple que ça. Et quand celui qui donne son argent dit que je préfère ne pas vous donner, je vais donner à votre population. Pourquoi vous vous fâchez pour dire ne donnez même pas à la population? Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends rien. En tout cas, c'est incohérent du début jusqu'à la fin.
Incohérent, oui, mais à travers cette décision, quel est le message que la RDC envoie à l'Union européenne en particulier et au monde en général?
Je pense qu'on est en train de refaire l'histoire de Mobutu. Nous refaisons textuellement et curieusement avec les mêmes acteurs, sur les mêmes lieux, les mêmes erreurs, et au risque de tirer les mêmes conséquences si on ne fait pas attention.
Mais Maître Madiolo a rappelé ici que les Aïrs n'avaient rien perdu, n'est-ce pas, de ces bras de fer entre la Belgique.
Je pense que dans ces affaires-là, il faut faire la part des choses entre le pays et le régime. Le pays a beaucoup perdu dans l'histoire conflictuelle des relations entre la Belgique et moi qui vous parle. J'étais formé en Belgique. Mais c'est pas avec le gouvernement, c'est pas avec la bourse du gouvernement congolais, c'est avec la bourse du gouvernement belge, soyons sérieux. Et donc, la Belgique offre beaucoup de bourses aux universités congolaises et l'université, l'État congolais donne zéro bourse. Alors, soyons sérieux. Je pense que entamer plutôt les intérêts des Belges, laisser les intérêts des Congolais tranquilles. Le gouvernement belge a dit qu'il va donner aux Congolais. Il n'a pas dit qu'il retire. Et c'est l'argent des Belges. C'est pas l'argent congolais. Et donc, n'embrouillez pas tout. Mais si vous avez de l'argent que vous donnez aux Belges, arrêtez cet argent.
Merci Christian Moleka, coordinateur de la dynamique des politologues de la RDC. Votre analyse par rapport à cette situation?
Bon, je dirais que les décisions prises ne sont que des instruments politiques qui traduisent, le retour de la confrontation. Si vous regardez l'évolution de la relation diplomatique entre la RDC et la Belgique, elle est faite, comme vous l'avez dit, en dents de scie. Il y a énormément de périodes de confrontation et quelques rares périodes d'apaisement. La dernière confrontation, vous vous rappelez, c'est la période du ministre Karel de Gucht.
qui a conduit à la fermeture des consulats à Anvers, des mesures de rétorsion avec l'ambassade belge ici à Bukavu. Et donc c'est le yo-yo habituel. Vous avez une période de confrontation suivie des normalisations, comme le dit le diplomate. Ensuite, le retour des confrontations. Tout cela parce que d'un côté, vous avez au niveau de la classe dirigeante belge quelques décideurs qui estiment qu'ils ont un pouvoir moral, ce pouvoir de regard sur les questions politiques intérieures en RDC. Et de notre une classe politique congolaise, une classe dirigeante plutôt, qui pense que la souveraineté ne devrait pas être empiétée, que les questions politiques intérieures ne devraient pas être discutées à ce niveau-là. Donc il y a cette dichotomie-là qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui remonte depuis très longtemps. Si vous remontez très très loin, vous verrez que ces questions sont revenues même dans les années 81 avec le maréchal Mobutu, qui va conduire aux signatures d'accord des Rabat de 1989. Et nous avions tenté de normaliser en 2009 avec le retour de la coopération militaire. Mais il y a toujours au niveau des classes politiques dirigeantes en RDC en Belgique cette dichotomie qui fait que nos relations sont généralement dans des si.
Que répondez-vous à ce qui affirme que l'histoire est en train de se répéter en rappelant les rapports que les maréchals Mobutu entretenaient avec le gouvernement belge vers la décennie 80-90?
Bon, il y a beaucoup d'acteurs nouveaux, parce que l'histoire, bon, nous avons fait les sciences sociales, l'histoire ne se répète pas, l'histoire peut bégayer, il y a des éléments de continuité, il y a des éléments de discontinuité. Et aujourd'hui, il y a des acteurs nouveaux comme l'Union européenne qui n'existait pas en 92, des acteurs nouveaux comme la Russie, comme la Chine qui n'étaient pas en 92. Donc il y a de nouveaux acteurs, il y a un nouvel environnement plus complexe et diversifié. Je crois que peut-être l'erreur aujourd'hui des dirigeants, c'est de penser que la faiblesse économique de la Belgique ne fait pas de lui un acteur important. On a vu la Belgique peser sur la scène internationale, énormément sur les questions du Congo. Vous vous rappellerez qu'en 2009, la Belgique a été membre non permanent du Conseil de sécurité et beaucoup de résolutions en faveur du Congo étaient portées grâce à l'apport de la Belgique. Vous vous rappellerez qu'en 1998, Louis Michel a porté énormément les questions congolaises sur la scène internationale, ce qui a fait que beaucoup de résolutions on l'a obtenu grâce au soutien de la Belgique. Donc certes, aujourd'hui, la Belgique n'est plus la puissance économique d'antan dans la part économique du Congo, mais il demeure un allié stratégique important pour porter la question congolaise dans la scène internationale, notamment auprès de l'acteur global qu'est l'Union européenne. Et donc, oublier cet aspect-là, c'est probablement revenir dans les mêmes erreurs, parce que la Belgique est entendue lorsqu'on parle des questions du Congo à l'international.
Oui, parce que la Belgique est entendue, n'est-ce pas, quand on parle des questions du Congo à l'international. Et vous avez suivi le professeur Arsène Mouaka. Après les bras de fer avec l'Église, le gouvernement congolais semble engager un bras de fer avec la Belgique suite au processus politique. Christian Moleka, la RDC n'aurait pas intérêt à repenser la gestion de son processus politique?
Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de désamour qui n'a pas commencé maintenant entre une classe politique belge. Vous vous rappellerez qu'il n'y a pas longtemps, l'ambassade de la Belgique a été inaugurée ici et la classe politique congolaise l'a boudée. Vous vous rappellerez le dernier passage du chef de l'État à New York, où le ministre Didier Reynders a été boudé également, lors du tête-à-tête particulier avec le premier ministre Michel. Et donc, il y a depuis un certain temps des signes qui prouvent ce désamour. Et aujourd'hui, je crois qu'on a sorti les flingues parce qu'il s'agit de prendre des mesures de rétorsion des uns vis-à-vis des autres. Mais ces mesures-là ne sont ni gagnants pour le Congo ni pour la Belgique. Parce que ce qu'il faut pour le Congo et la Belgique, c'est une vision stratégique partagée. La Belgique gagne avec le Congo parce que le Congo offre à la Belgique cette profondeur stratégique qui donne le rayonnement à l'international. Le Congo gagne avec la Belgique parce qu'avec la Belgique, le Congo a une voix. Faut pas oublier que la Belgique, c'est le siège de l'Union européenne, c'est le siège de l'OTAN, et le Congo gagne en ayant un allié au sein de l'Union européenne. Je crois qu'aujourd'hui, cette guerre que nous commençons aura de l'incidence, et il faut que chaque partie puisse réévaluer les mesures pour que nous revenions très rapidement à une normalisation, sinon il y aura certainement des conséquences de l'autre partie.
Et à votre avis, jusqu'où ces deux pays pourraient-ils aller dans leurs relations mutuelles?
Nous avons déjà connu le pire. En 92, il y a une rupture diplomatique entre l'Inde et la Belgique. Les relations ne sont revenues que vers les années 98-2003. Donc, revenir à ce niveau-là n'est pas intéressant. Je voudrais abonder dans le même sens que le professeur Arsène Mouaka. Les gens, ça certainement focalisent l'attention sur l'aide publique au développement. Mais la Belgique n'est pas que l'aide publique au développement. Vous vous souviendrez que la coopération militaire belge nous a permis d'avoir l'unité commando du feu Mamadou Ndala.
Mais qui a été suspendu en avril dernier.
La coopération militaire belge a également permis que nous ayons des jeunes Congolais qui ont été formés à l'école royale militaire de Belgique. Et donc, ne nous limitons pas à voir l'aspect aide publique au développement. Il y a également la coopération culturelle, qui est aujourd'hui portée par Roland de Bruxelles, par Tezaf Bilembo, qui apporte énormément pour la culture congolaise. Donc, la coopération est diversifiée. Le Congo a beaucoup à perdre, mais également la Belgique. Donc, il faudrait aujourd'hui que chaque partie puisse réévaluer, tenant compte des différends qui sont sur la table. Je crois qu'il est possible de revenir à une normalisation.
Merci, Maître Guillaume Majolo. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Goma, au nord Kivu.
Ferdinand Kindamina, je vous appelle à partir de Goma, dans la province du nord Kivu. Je trouve que cette décision du gouvernement congolais est prise d'une manière irréfléchie pour seulement reporter à la mesure du gouvernement belge de revoir son aide vis-à-vis du pays en l'orientant vers les ONG. Cette mesure frappe malheureusement tous les Africains voulant se rendre dans l'espace de l'Union européenne. Cette décision n'est pas salutaire pour le pays en ce sens que c'est plus isoler les pays du reste du monde et à mon avis c'est plus qu'une auto-sanction que le gouvernement congolais vient de se faire.
Oui, Maître Majolo.
Oui, j'ai entendu ce qu'il a dit, mais bon, au fait, je maintiens la position que j'ai dite avant. Mais de ce qui a été dit avant moi, j'ai retenu deux choses qui me paraissent être utiles. En ce qui concerne la situation inter-congolaise, si on peut en discuter entre nous et que M. Arsène Mouaka peut sortir tous les arguments qu'il veut, y compris ceux qui sont très acides vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de ce qu'on peut faire ici, tout ça, je pense aussi qu'il n'y a pas de problème, on peut discuter, voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses.
Parce que ça semblait être la pomme de discorde. J'ai posé la question au professeur Arsène Mouaka, est-ce que la RDC n'aurait pas intérêt à repenser la gestion de son processus politique?
Oui, mais on peut y revenir, mais simplement je pense que dans ce qu'il a dit, ce qui m'intéresse le plus, c'est dire qu'effectivement il y a des choses qu'on doit faire mieux chez nous pour permettre, pour empêcher qu'on soit demandeur. Je peux comprendre ça, on peut discuter comment on fait les choses autrement. De ce qu'a dit Monsieur Christian Moleka, je peux retenir que bon, il faut qu'on approche nos stratégies en termes de discussion, pas un supérieur par rapport à un inférieur. C'est-à-dire, le fait que vous nous ayez colonisé à Imperio, le fait que vous ayez commis un génocide en RDC ici, vous avez trouvé plus ou moins 25 millions d'habitants, quand vous êtes parti, il en restait 12 millions et demi, ces faits-là que vous ayez éventuellement tué Lumumba, et que parce que vous ne vouliez pas de Lumumba, vous vouliez de quelqu'un d'autre, tout ça, tous ces faits, il y en a tellement. Au jour d'aujourd'hui, la loi Dodd-Frank, puisque bon, j'ai entendu le professeur me dire, oui, il dit ce qu'il dit, c'est moi qui ai fait le document, monsieur le professeur, je l'ai fait les documents. Donc je suis, c'est lui, la vache laitière, celle qui produit du lait. Ces documents, je les fais sous l'autorité des ministres Amo Tshibanda. Et par la suite, Mouzito l'a signé. Ça s'appelle normalisation des relations entre la RDC et la Belgique. Vous êtes chercheur, consultez les documents. Et là, on dit, on ne peut plus se permettre ce type de procédure. Qu'ils nous reprochent des choses, je vous l'accorde, mais qu'ils les disent de manière convenable. C'est tout ce qu'on demande, pas grand-chose. La loi Dodd-Frank nous démontre effectivement la sortie du coltan de la RDC passe obligatoirement par la Belgique. Et vous le savez. D'ailleurs, c'est juste derrière chez moi où il y avait la société ZX quelque chose et tout ça, où la Belgique elle-même a fait des reportages extraordinaires sur les portables du sang. C'est un milliard de dollars, s'il vous plaît. Et toute cette partie-là où on exploite les coltans, il y a des morts par milliers et depuis très longtemps. On ne parle pas des 25 millions, on ne parle pas de lait de saupoudrée, il ne s'agit pas de ça. Je ne suis pas pour l'éloge de la mendicité. Parce que la RDC-ci, on prend du coltan qui sort de la RDC, qui permet à ce que tout le monde puisse avoir un portable en main et que la Belgique profite largement de cet argent-là, on ne peut pas aujourd'hui venir s'agenouiller pour dire oui, les 25 millions, oui, ils nous aident par rapport à l'aspect militaire, ils nous aident par rapport à l'université. Mais monsieur, vous êtes université, vous savez très bien, nous avons tous fait l'université à l'extérieur. Les centres de recherche, à la fois la recherche fondamentale et appliquée, ça coûte des milliards. C'est pas un programme de coopération à un moment donné. Il ne s'agit pas de ça. Je parle des centres de recherche fondamentales et appliquées qui nous permettront éventuellement, à notre niveau, de transformer nos matières premières, ne plus être demandeurs. On ne l'a jamais fait. C'était déjà jamais parvenu chez nous. Quand on regarde la situation qui se passe au niveau de la Turquie aujourd'hui, les droits humains en Turquie, est-ce que la Belgique peut dire un seul mot sur la Turquie? Dernièrement, il n'y a pas plus tard que 3-4 jours, la Turquie a attaqué la Syrie pour les Kurdes qui sont en Syrie. Et on l'a amené devant les conseils de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Parce qu'elle est puissante.
On sait que l'Union européenne n'est pas d'accord avec l'approche du gouvernement turc.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais qu'ils soient pas. Qui sont en Syrie.
Qu'est-ce qu'il y a comme sanction sur la Turquie de l'Union européenne, notamment de la Belgique? Rien. Et pendant ce temps-là, ils sont partis au niveau du Conseil de sécurité. Ils n'ont même pas obtenu gain de cause. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer sous l'angle, les prismes de la servitude volontaire, comme disait à l'époque Étienne de Boétie. Donc, on ne peut pas continuer sous l'éloge de la mendicité. Non. La RDC, il y a énormément de failles dans la gestion depuis très longtemps. Je ne cesse de les répéter. Mais entre nous, on doit discuter. Si, prenons l'exemple. Honorable député, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous savez l'argent que vous touchez sur le dos du contribuable depuis presque 6 ans, si vous êtes du dernier mandat. Aujourd'hui, 6 ans à peu près. Si on vous retranche ne fût-ce qu'un petit $1,000 pour donner à cette population qui est très pauvre, est-ce que vous accepterez? Vous ne l'avez jamais fait. Débattez au niveau du Parlement, enlevez une partie de vos revenus par rapport à ça, parce que vous touchez beaucoup trop, beaucoup plus que tout le monde. Vous ne le dites pas.
Est-ce que le contentieux belgo-congolais a été vidé?
Les contentieux ne peuvent pas être vidés dès lors que la respectabilité, les respects mutuels n'est jamais établi. Dès lors qu'il y a un partenaire qui pense être supérieur en permanence, il ne veut pas négocier d'égal à égal parce que il nous a occupés pendant une période. C'est ça les grands problèmes. Et qu'on doit sortir de là, revenir aux fondamentaux, apaiser nos relations en respectant les textes qu'on a convenus. Les derniers textes qu'on a convenus datent du 24 janvier 2009, disaient qu'on ne pouvait plus se permettre l'ingérence, merci, mais plutôt des discussions de manière diplomatique. C'est merci ce qu'on recommande, c'est tout.
Merci, Maître Mandiolo. Professeur Arsène Mouaka, il y a une réflexion pour vous, elle vient de Oïcha au Nord Kivu.
Donc, à partir d'Oïcha, mon avis, je crois que la fermeture de cette structure, c'est une très mauvaise chose. À la mesure où la coopération des États, c'est une coopération gagnant-gagnante. Mais je crois que la RDC actuellement semble être une base, un État, parce que les autorités veulent à tout prix rester au pouvoir par n'importe quel moyen. Alors, si la Belgique peut affecter ces fois-là dans le cadre de nous aider pour que nous allions aux élections, c'est une très bonne chose. Et là, je crois que si la Belgique peut nous aider, elle peut faire la pression sur les autorités. Mais comme la Belgique vient négocier à position de faiblesse, voilà, même si ce fois-là, ça va passer inaperçu. Et la RDC finira par fermer l'espace 5e et aussi fermer cette organisation-là. Alors, je crois que l'Occident aussi ne doit pas aussi se faire comme maître d'école dans les pays souverains.
Oui, professeur Hassan Mouaka.
Oui, bon, je pense que ça va dans le même sens. Je pense qu'il y a un gouvernement qui tient compte de l'opinion publique. Je pense que le minimum, c'est de circuler et de demander si cette décision est rationnelle et qu'elle est conforme à la volonté de la population. Je pense que la réponse, elle est claire. Et je suis un des représentants de cette population. Je l'ai dit clairement que la mesure punit plutôt les Congolais que ne dessert la Belgique. Parce que quand vous allez refuser l'argent de la Belgique va l'affecter au Burkina Faso et ailleurs, où elle a une coopération qui attend cet argent. Ça va profiter aux autres pays. Bon, maintenant, est-ce que c'est cela la mendicité? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand quelqu'un dit « je vous donne l'argent », vous ne pouvez pas refuser quand quelqu'un dit qu'il vous donne. Et donc, vous n'allez pas demander aux députés nationaux, aux ministres, aux conseils des ministres que vous avez été et qui touchaient beaucoup trop d'argent dans des voyages à New York et ailleurs, qui ont fait fortune. Vous n'allez pas dire qu'il faut qu'on vous coupe votre argent, qu'on vende votre résidence, puisqu'il y a un gouvernement qui a décidé de bouder l'argent. C'est irrationnel. Et donc, moi, je pense qu'ici, c'est qu'on peut commettre une erreur. Mais persévérer dans l'erreur, et c'est inadmissible. Et je refuse ces arguments des dictateurs qui consistent à dire, quand on intervient pour dire « Monsieur, respectez le droit de l'homme », il dit « C'est l'impérialisme, c'est la domination, c'est la Belgique ». Et on commence à faire toute l'histoire. 25 millions de morts. Vous étiez où dans la conception de votre politique des affaires étrangères pour dire qu'on va régler cette affaire? Quand vous définissiez les axes de la politique des affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères, là où vous avez été, où est-ce que vous étiez pour définir les axes? Je n'ai jamais attendu que nous avons des politiques publiques ici. Il n'y a rien. C'est au taux du jour que le pays est géré. Et voilà encore une mesure épidermique. C'est inadmissible.
Professeur Hassan Mouaka, vous avez dit que vous avez été formé en Belgique. Est-ce qu'il y a une différence entre les relations que la France entretient avec ses anciennes colonies et la manière dont la Belgique se comporte vis-à-vis de la RDC? Est-ce qu'il y a une différence?
Moi, je pense qu'il y a quand même un demi-siècle, plus d'un demi-siècle que notre pays a été colonisé. Moi et mon ami Maître Mandiolo, nous ne connaissons rien de la colonisation, dans ce sens où ça ne nous a pas touché sur le corps. Nous les lisons dans les livres d'histoire, nous compilons les archives, pour nous rendre compte des dégâts de la colonisation. Et je pense que c'est à travers des politiques publiques que nous devons régler ça. Ce n'est pas à travers des petits communiqués, des petites lettres, des coups de gueule. Je pense que nous qui aspirons à gérer demain, nous saurons comment régler cette affaire avec d'autres Belges qui n'ont pas connu, puisque les coloniaux sont en train de mourir successivement. Moi, j'en connais beaucoup. Ils meurent avec leur histoire. La jeune génération belge ignore tout de ça.
Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que la France a une certaine considération vis-à-vis de ses anciennes colonies, comparativement à la Belgique vis-à-vis de la RDC?
Je refuse de comparer à ces termes. Si vous voulez qu'on vous respecte, dirigez de manière à être respecté. Maurice Godelier dit souvent, n'est dominable que celui qui est dominable. On vous domine puisque vous êtes dominable. Et donc, quand vous ne vous respectez pas, vous ne savez pas respecter votre constitution, vous ne savez pas respecter un engagement pour lequel vous avez signé, vous ne savez pas juste faire passer un cycle électoral. Mais comment peut-on vous respecter? Comment? Et donc, rendez le pays respectable en organisant des élections sans appeler les gens, sans que les gens grondent, sans que votre propre peuple s'élève, sans que des saints comme des évêques et tous les autres s'élèvent pour dire « vous nous roulez dans la farine, hein, avec l'accord de Saint-Sylvestre, vous nous avez impliqués dans ces trucs, et même vous, et même nous, vous nous roulez, alors nous nous levons, et vous tapez sur les sœurs, vous tapez sur tout le monde, c'est inadmissible ». Dans ces conditions-là, on ne peut pas vous respecter. Et donc, ce n'est pas le pays qui est humilié, c'est un régime qui est humilié. Malheureusement, ça a tel honneur du pays. Malheureusement.
Christian Moleka, il y a une réflexion pour vous, elle vient de Bukavu, au Sud-Kivu.
Isaac Bapoïki de Bukavu, au Sud-Kivu. Le gouvernement de la RDC semble réagir sous le coup de l'émotion et de manière disproportionnée, car la maison Schengen n'est pas pour la seule Belgique, mais pour l'Union européenne. Un peu de sagesse et de diplomatie de la part des deux parties pourrait apaiser la situation, car nous ne gagnons rien à étendre le conflit. Au contraire, nous avons intérêt à toujours sauvegarder et améliorer nos relations avec nos partenaires traditionnels.
Christian Moleka.
Merci Isaac, je suis très intéressé par la dernière partie de votre réflexion. Si la RDC et la Belgique pouvaient gagner à sortir de la diplomatie des directives et des émotions, ce serait une très bonne chose. Et c'est cela ce que nous souhaitons. Nous souhaitons c'est que la RDC et la Belgique développent une, je dirais, un partenariat stratégique global qui tienne en compte des intérêts de chacun et du respect de l'autre. Non à cette diplomatie directive et non plus à cette diplomatie réactive des émotions qui viennent à coup de bannières non structurelles. Nous avons besoin d'une politique pensée structurelle qui pense aux intérêts de la population. Et je crois que c'est possible. Si la classe politique au Congo, si la classe politique en Belgique peut développer l'intelligence stratégique qui donne la place au Congo et à la Belgique, faut pas oublier lorsque le Congo devenait indépendant, avant que l'on prenne l'indépendance, parmi les projets qui ont été proposés, c'était l'union belgo-congolaise. Pour que nous ayons cette union-là, que nous pouvons repenser aujourd'hui, non plus en termes d'État, je dirais, unitaire, mais en termes de partenaires stratégiques au niveau africain et européen. Si la RDC et la Belgique veulent le faire, nous pouvons le faire. Et je suis d'accord pour votre dernière linéa de réflexion, elle est d'accord. Je suis d'accord pour ça.
La Belgique conditionne le retour des relations à l'organisation d'élections libres et transparentes et crédibles.
Je crois que les élections sont des éléments de souveraineté intérieure. Et c'est là où peut-être que, comme je l'ai dit tantôt, il y a cette volonté de pouvoir moral que l'on sent de plus en plus de la Belgique sur les questions politiques intérieures. Les élections sont des éléments de souveraineté intérieure qui doivent se révéler à l'intérieur. Les partenaires peuvent nous accompagner, mais non pas nous dicter.
Alors, à votre avis, que faut-il pour améliorer ces relations?
Pour améliorer les relations entre la Belgique et le Congo, il faut sortir de ce que nous avons dit ici, des directives, des émotions, mais penser. Nous avons un problème de pensée stratégique. Que ce soit au Congo ou en Belgique, il n'y a pas aujourd'hui un espace où l'on peut penser une pensée stratégique commune. Parce que comme je le dis, le Congo a besoin de la Belgique pour avoir un point focal au niveau d'un acteur majeur global comme l'Union Européenne. La Belgique a besoin du Congo pour avoir ce rayonnement grâce à cette profondeur stratégique que le Congo lui offre. Nous avons besoin de ce partenariat-là. Et ça passe par, comme le dit le professeur Mwaka également, cette nouvelle génération d'acteurs politiques congolais et belges qui n'ont pas connu la colonisation plutôt, et qui peuvent entretenir des relations décomplexées, dépassionnées, adultées, je dirais équilibrées, qui ne tiennent pas compte des passions ni des prises de position émotives.
Est-ce qu'il y a eu changement dans l'attitude des acteurs, des dirigeants belges de l'époque de la colonisation et ceux d'aujourd'hui. Vous avez suivi Maître Mandjolo qui rappelle lorsque en 2009 ils sont allés pour la normalisation des relations, ils se sont convenus sur un certain nombre de principes, mais ils se sont rendus compte que la Belgique ne respecte pas ces principes.
Mais bon, il faut aller dans les fonds des choses. Je pense que la Belgique aujourd'hui a besoin d'avoir une place dans le jeu politique congolais. Et les Congolais doivent le comprendre. Nous avons des relations naturelles qui datent historiques, qui datent à la période précoloniale. Il ne faut pas aujourd'hui que la relation, notre politique diplomatique se limite à regarder le poids économique des pays. Si nous nous limitons au poids économique des pays, nous ne verrons pas la dimension stratégique de la Belgique qui n'est pas forcément économique. Et donc, il faut que la classe des dirigeantes congolaises comprenne qu'il faut que dans le jeu de politique au Congo, dans l'espace économique congolais, malgré l'arrivée de nouveaux alliés, que ce soit la Chine ou la Russie ou l'Afrique du Sud, qu'il faut laisser de la place à ce partenaire stratégique qui peut être pour nous un allié plutôt qu'un adversaire. Je crois que le fait qu'on n'ait pas pensé qu'au-delà du rapport économique, il faut donner une place à cet acteur important qui est à l'origine de toutes ces frustrations.
Maître Mandjolo, l'amélioration des relations entre la Belgique et la RDC passerait par quoi?
Bon, je pense, en fait, on a globalisé un peu trop vite, et même moi, je pense que j'ai fait cette démarche-là. Il ne s'agit pas de toute la Belgique. Il ne s'agit pas de tous les politiques belges. Si vous regardez les débats qui se passent au Parlement belge, vous trouverez qu'effectivement, il y a une bonne frange de la population belge représentée à leur Parlement qui n'est pas fondamentale pour une certaine politique menée face à la RDC.
Mais les décisions prises par le gouvernement belge sont, en fait, engagent toute la Belgique.
Bien entendu, je le sais. Mais vous savez, comme ça, des lobbies assez spécifiques d'un certain parti politique qui, d'ailleurs, nous a soutenus pendant très longtemps, et je parle du MR, qui nous a soutenus pendant très longtemps, pendant la période très difficile. Le MRA était là, à travers Louis Michel. Aujourd'hui, avec les premiers ministres belges, on n'a presque pas de soucis. D'ailleurs, il a été reçu très longuement à New York par le chef de l'État, avec une discussion tout à fait profonde, sincère. Mais simplement, au sein de son parti politique, il y a des éléments qui sont réfractaires de cette situation-là, qui sont partis sur une autre option, qui malheureusement n'a pas marché. Et c'est comme ça qu'ils sortent un peu des bois pour sortir ces types d'oukases et des fatwas. Ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'on doit revenir au bon sentiment, sortir de ce qu'on appelle les passions contemporaines que nous explique Pascal Boniface, et qui ne sont pas nécessaires au jour d'aujourd'hui. Parce que épouser la situation qui se passe sur le terrain pour pouvoir en faire un commerce, ce n'est pas bien. Mais donner des conseils aux partenaires pour lui dire, voilà, la direction que vous prenez peut-être n'est pas la bonne, voilà comment il faudrait faire. Tout ça, c'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus respectable et respectueux. Donc on peut entendre plus facilement un discours de cette nature-là, qui est des injonctions de nature autoritaire, des supériorités, ce qui n'est pas acceptable. Dans la mesure d'ailleurs, on a convenu un texte et qu'on a dit qu'effectivement, ils peuvent le faire même par note verbale.
En conclusion,
je rappelle simplement que dans le futur, nous avons une relation très imbriquée. On a des familles entremélangées, tout ça, des économies entremélangées. On a une histoire de non-imposition commune et tout ça. Donc, il y a beaucoup de textes qui régentent nos relations et tout ça. On ne peut pas sortir de là aussi facilement. Merci. Par coup de gueule, par coup de cœur, ou par émotion, ou par passion contemporaine. Il est nécessaire que les respects mutuels reviennent, qu'on revienne à la raison, qu'on discute par les mécanismes appropriés tels qu'on avait convenu. Merci. Et ça serait une chance pour tous les deux pays.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Vous allez aussi conclure. Il y a la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOGEC, en sigle, qui invite les deux États à reconsidérer leurs positions respectives et à construire un programme de coopération concertée et équilibrée et respectueux du principe de non-ingérence. Votre réaction?
Bon, je ne partage pas, il n'y a pas ingérence. Je pense que ce que nous devons faire, c'est d'organiser notre pays de manière à nous rendre respectables. Et dès que nous sommes respectables, nous pourrons être en mesure de discuter avec les Belges et bâtir à la fois sur notre passé, mais aussi bâtir beaucoup plus pour l'histoire, pour l'avenir, en fait. Nous devons nous efforcer de penser notre avenir pour nous-mêmes. Et plutôt que de penser que les autres doivent faire des choses pour nous. Nous sommes dans des rapports de force. Si la Belgique a l'occasion de nous écraser, elle va le faire. C'est à nous de nous rendre forts.
Christa Monica, votre conclusion?
Je dirais simplement que les deux pays ont besoin d'un partenariat stratégique global qui est pensé, qui repose sur une vision. Et pour cela, il faut que la classe dirigeante belge et congolaise puisse dépasser cette diplomatie de directives et celle des émotions.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Willem Lungamba qui était à la technique, Alain Irung et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.